Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. L'Iran a prévenu les Américains et les Israéliens, ce crime ne restera pas sans réponse. Téhéran promet une réplique au raid sur l'annexe de son ambassade en Syrie qui a fait 11 victimes, dont 7 gardiens de la Révolution. Une opération inédite qui fait craindre une surenchère et un embrasement évité jusque-là dans la région. Depuis, le monde retient son souffle. Les Américains s'empressent de préciser qu'ils n'ont rien à voir dans ces frappes. Les Russes mettent en garde contre des conséquences potentiellement très dangereuses. Pendant ce temps-là, Israël, qui n'a pas revendiqué cette frappe, doit s'expliquer sur une autre opération, celle qui a conduit à la mort de 7 humanitaires d'une ONG américaine dans un Gaza menacé par la famine. Israël frappe l'Iran, le monde craint la réplique, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Frédéric Ancel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Je rappelle la nouvelle édition de Petites leçons de diplomatie publiée chez Autrement. Avec nous ce soir, Agnès Levallois, vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes chargée également de cours à Sciences Po. Avec nous ce soir, Mariam Pirzadeh, vous êtes journaliste, rédactrice en chef à France 24, spécialiste de l'Iran. Vous êtes ancienne correspondante à Téhéran jusqu'en 2019. Enfin, Alain Pirot, vous êtes journaliste spécialiste des questions de défense. Vous êtes ancien correspondant à Jérusalem. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Agnès Levallois. C'est une frappe en Syrie, qui frappe une ambassade iranienne. Est-ce que ça arrive tous les quatre matins ou est-ce que c'est un fait qui mérite quand même d'être souligné ?
C'est un fait qui mérite d'être souligné, puisque cette attaque a lieu à Damas, la capitale donc de la Syrie, dans une enceinte diplomatique, l'enceinte diplomatique de l'Iran, le consulat iranien, ce qui est quand même pas rien, puisque c'est considéré en termes de relations internationales et de droit international comme un territoire iranien. Donc c'est vraiment une attaque dirigée clairement contre l'Iran. Et apparemment, les Israéliens avaient des renseignements selon lesquels il y avait une réunion et à laquelle participaient des hauts responsables, des gardiens de la Révolution, qui est donc le bras armé de la République islamique présent en Iran. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que ça a lieu donc dans la capitale de la Syrie, Damas, que si cette frappe a pu avoir lieu, c'est qu'il y a forcément les Russes étaient au courant, puisque les Russes contrôlent l'espace aérien syrien depuis, en gros, plusieurs années, depuis la guerre en Syrie, où les Russes sont un soutien du gouvernement de Bachar el-Assad, que l'Iran est un soutien aussi de ce gouvernement, et que donc l'Iran peut se mouvoir librement en Syrie, de par cette présence et cette coopération militaire en particulier, entre Damas et Téhéran.
Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les Russes ont laissé faire non, c'est quoi ?
En tous les cas, ils ont été au courant, bon. Comme d'ailleurs dans tous les bombardements. Ce qu'il faut rappeler quand même, et ça c'est important, c'est que ça fait des années, qu'Israël bombarde régulièrement en Syrie les infrastructures, soit militaires syriennes, soit des infrastructures iraniennes présentes en Syrie, et que donc à chaque fois, ce soit l'aéroport de Damas, l'aéroport d'Alep, donc quand même des lieux importants pour la Syrie, et que tout ça se fait effectivement devant et avec une certaine complicité, ou en tous les cas un accord tacite des Russes.
Mariam Pirzadeh, sur cet événement, cette déclaration du président iranien, ce crime lâche ne restera pas sans réponse. On va revenir pour savoir, puisque c'est un peu le sujet qui nous réunit ce soir, quelle peut être la réponse de l'Iran. Encore une fois, pour les gens qui nous regardent ce soir, ce qui s'est passé avec une frappe sur une ambassade d'Iran à Damas, c'est pas rien, quand on sait surtout le profil de ceux qui ont été visés. Peut-être qu'on peut s'arrêter sur ces 7 gardiens de la Révolution. C'est quoi les gardiens de la Révolution?
Alors, les gardiens de la Révolution, il y a 5 branches chez les gardiens de la Révolution, et ils faisaient partie de la branche Al-Khout, qui est la branche extérieure des gardiens de la Révolution, donc qui agit en dehors des frontières de l'Iran. Et ces gardiens de la Révolution de Al-Khout sont présents en Syrie et au Liban depuis le 8 octobre et même avant. Donc c'est un peu le bras armé de l'Iran dans la région, l'armée idéologique qui permet aussi au régime de se maintenir. Ce n'est pas n'importe qui, vous l'avez dit. C'était notamment Mohammad Reza Zaidi, c'était celui qui faisait la jonction avec le Hezbollah, qui avait vraiment un lien très privilégié avec l'Hezbollah. Il y avait aussi son adjoint qui était présent. Mais rappelons qu'en décembre, il y a un autre gardien de la Révolution très haut gradé de cette même milice qui a été été touchés par une frappe également, mais c'était au Liban, de mémoire. Donc, ce ne sont pas n'importe qui. En fait, les gardiens de la Révolution, comme le disait Agnès très bien, se réunissent régulièrement à l'ambassade iranienne de Damas, à l'ambassade iranienne de Beyrouth. Ils savaient qu'il y avait une réunion avec le djihad islamique, donc un groupe islamiste de la bande de Gaza. Et c'est une frappe chirurgicale qui a frappé vraiment ce consulat iranien. Juste à côté, il y avait l'ambassade iranienne. À l'intérieur, il y avait l'ambassadeur iranien en Syrie qui n'a pas été touché. Donc ça montre bien que les Israéliens ont mené une frappe chirurgicale et voulaient absolument neutraliser ces 7 personnes.
Alain Piron, dit les Israéliens, ils n'ont pas souhaité répondre quand on les a interrogés sur le fait qu'ils seraient à l'origine de cette attaque. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit les Israéliens.
Il y a d'autant moins de doute qu'on sait qu'ils ont prévenu leurs homologues américains quelques minutes après le décollage des avions, ce qui a été mal perçu par Washington, qui n'aurait pas été prévenu en amont et qui ne savait pas visiblement quelle était la cible. Donc ça veut dire aussi qu'il y a à travers cette attaque un message envoyé aussi par la partie israélienne et Netanyahou à Washington.
Quel genre de message ?
Qui fait écho à bon nombre d'événements qui se sont déroulés, la non-intervention du veto américain à l'ONU, une forme de, comment dire, de volonté de Netanyahou d'aller au bout de sa partition avec...
les risques que ça comporte aussi.
Oui, mais on est dans un moment dans le monde où agir par la force est vécu par beaucoup de dirigeants comme un moyen d'obtenir plus de choses que par la diplomatie, et c'est pas simplement au Proche-Orient, c'est dans bon nombre de territoires. Donc on peut imaginer que dans la logique de Netanyahou, il y a aussi la volonté très claire d'aller au bout d'une stratégie globale d'effacement d'un certain nombre d'ennemis considérés de l'État d'Israël. Mohamed Reza Zahedi, moi je l'avais connu, son nom je l'avais vu apparaître en 2000 à une date aussi symbolique, c'était le 7 octobre, sur l'enlèvement de 3 soldats israéliens. Son nom apparaissait sous l'égide du transfert d'armement vis-à-vis du Hezbollah. Donc c'est pas anodin comme signal compte tenu de ce qui se passe à la frontière avec le Liban ces derniers mois. C'est aussi un signal très fort envoyé par Israël dans l'idée de dire on va encore plus loin, jusqu'où vous irez, quelle sera votre réaction. Voilà.
Vous diriez jusqu'à dire, et on va en beaucoup en parler ce soir, qu'il y a une volonté d'Israël de tester les limites de l'Iran avec cette frappe-là.
Tester les limites de l'Iran.
Pousser l'Iran à l'affrontement.
Ouais. Et ça fait des années que ça existe. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi une volonté de tester très clairement le président Biden,
aussi
la volonté de Washington d'agir sur la diplomatie israélienne, et une manière de lui dire, sincèrement, pour l'instant, on ne vous écoute pas.
C'est ça. Frédéric Ancel, on peut peut-être préciser que les Américains, je le disais rapidement, se sont empressés de dire « nous n'avons rien à faire dans cette histoire ».
Oui, exactement comme les Iraniens après le pogrom du 7 octobre qui ont dit « ah mais ça c'est les Palestiniens, c'est pas nous ». Hein. Mais ce qui est très intéressant, parce que ça signifie que l'Iran comme les États-Unis ne souhaitent pas rentrer dans un schéma de guerre globale. Et d'ailleurs, concernant les Iraniens, c'est assez classique de la part de la République islamique d'Iran au pouvoir depuis 1979, elle ne fait pas directement la guerre. Elle l'a fait faire par les autres, on a évoqué le Hezbollah. Alors, dans le cyberespace, bon, il y a des virus iraniens qui sont assez embêtants de temps en temps. Enfin, ce n'est pas une guerre massive. Et les Iraniens jauge de manière extrêmement fine les rapports de force. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas, alors qu'ils avaient averti Israël, que si, après l'attaque du Hamas du 7 octobre, Israël investissait militairement la bande de Gaza, ce qui se fait massivement, comme depuis 5 mois, ils rentreraient en guerre. Mais ils ne sont pas en guerre. Donc, effectivement, Israël, me semble-t-il, en tout cas ce gouvernement, va jusqu'au bout de cette logique, en essayant de pousser les Iraniens à la faute. De ce qu'on peut en savoir, encore une fois, depuis 1979, ce n'est pas un régime qui fait beaucoup de fautes. Encore une fois, alors il peut très bien réagir, on va en reparler, je crois, de différentes manières, mais directement, massivement sur Israël, j'y crois pas un seul instant. Et dernier point, si vous permettez, les services de renseignement israéliens qui ont été ridiculisés par l'attaque du Hamas le 7 octobre, manifestement, avaient gardé un niveau d'efficacité mais absolument redoutable. Parce que s'il vient de se produire à quelque chose de nouveau, oui, parce que c'est un site diplomatique, mais fondamentalement, le territoire iranien, le territoire syrien, alors ça c'est en permanence, le territoire libanais, sont l'objet de frappe chirurgicale, comme vous l'avez rappelé, d'Israël depuis pratiquement le 7 octobre, avec une efficacité absolument redoutable.
Mmh. Oui, allez-y. Et à la fois, Ismaël Haniyeh, donc, qui est quand même parmi les hommes les plus recherchés par Israël, était à Téhéran encore la semaine dernière. C'est son deuxième voyage depuis le 7 octobre. Donc si jamais les Israéliens voulaient aller pousser le curseur un peu plus, ce serait d'abattre l'avion d'Ismaël Haniyeh en direction de Téhéran, donc Doha-Téhéran, ou de tuer Ismaël Haniyeh sur le sol iranien. Donc on voit bien quand même que la réponse, elle est graduellement bien choisie.
C'est peut-être l'étape d'après.
Peut-être, non. Mais c'est quand même une question. Deux voyages en l'espace de quelques mois, sans qu'il lui arrive.
Six missiles tirés par des chasseurs F-35 sur l'annexe de l'ambassade d'Iran à Damas en Syrie. Une opération inédite qui a tué 11 personnes, dont 7 gardiens de la Révolution. On l'a dit, les États-Unis se sont empressés de dire qu'ils n'étaient en rien impliqués dans cette offensive. Le régime iranien, lui, promet déjà que ce crime lâche, je cite, ne restera pas sans réponse. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
Hier à Damas, quartier des ambassades, le consulat iranien vient d'être bombardé. Présents à l'intérieur du bâtiment, plusieurs membres des gardiens de la Révolution sont morts, dont deux de ses commandants. Au milieu de la foule, à proximité des décombres, les autorités syriennes et iraniennes accusent et menacent Israël.
L'entité sioniste sait très bien que ce genre de crime et que chacun de ces crimes ne resteront pas sans réponse.
Notre peuple a l'habitude de répondre à ces lâches attaques et de prouver au monde qu'elles ne peuvent être contrées que par une plus grande fermeté et davantage de soutien au peuple palestinien et à la résistance, que ce soit en Irak ou au sud du Liban.
Quelques heures plus tard à Téhéran, des manifestants appellent à la vengeance, brûlant les drapeaux israéliens et américains. Et ce matin, les menaces de représailles continuent.
Le régime pervers sioniste sera puni par nos braves hommes. Nous lui ferons regretter ce crime et les autres.
Israël n'a ni confirmé ni infirmé sa responsabilité dans cette frappe. Ces derniers mois, d'autres raids déjà attribués à l'armée israélienne, mais rarement revendiqués, se sont multipliés, ciblant en Syrie des bases arrières iraniennes, des dépôts d'armes du Hezbollah ou des réunions de chefs pro-iraniens comme en janvier à Damas dans un immeuble résidentiel. La frappe fait 5 morts, dont le chef des renseignements des gardiens de la Révolution. Depuis la frappe d'hier dans la capitale syrienne, la tension monte, faisant craindre aux Syriens le retour de la guerre.
Je pensais que la guerre était finie, mais j'ai bien l'impression qu'elle recommence. J'étais sur le trottoir et d'un coup, je me suis retrouvé sur le trottoir d'en face.
Cette guerre ne s'arrêtera jamais. Mais nous, on ne peut rien faire.
L'escalade est-elle désormais inévitable? Tous les alliés de l'Iran affichent une même volonté d'en découdre avec Israël, et notamment le Hezbollah libanais qui promet de se venger. Depuis le 7 octobre, entre le nord d'Israël et le sud du Liban, les combats sont réguliers, mais sans pour autant transformer la frontière en nouvelle ligne de front. Mais vendredi, le ministre de la Défense israélien sur place semblait déjà préparer les esprits à une intensification du conflit.
Nous ne faisions que repousser le Hezbollah. Désormais, nous sommes ceux qui poursuivons le Hezbollah. Et nous atteignons tous les endroits où le Hezbollah est présent. Au Liban, à travers toute la région, comme à Damas.
La guerre au Proche-Orient a-t-elle déjà basculé? Les États-Unis assurent à l'Iran qu'ils n'étaient pour rien dans l'attaque de l'ambassade iranienne. L'Union européenne appelle à la retenue. La Russie et la Chine condamnent les bombardements.
La sécurité des institutions diplomatiques ne peut être violée. Et la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie doivent être respectées.
Sans vouloir faire des conclusions trop hâtives, il est clair que ces frappes sont une violation de toutes les lois internationales et représentent un acte d'agression.
À la demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir.
Et cette question de Sohan, qui fait écho d'ailleurs à ce qu'on vient d'entendre dans la voix de Dimitri Peskov, frapper un consulat ou une ambassade n'est-il pas considéré comme une déclaration de guerre, Agnès Levallois?
Mais si, c'est vrai que ça va à l'encontre quand même de toutes les règles internationales et ça va à l'encontre de tout ce qui on peut, de tout ce qui fonde notre système de relations internationales. Donc oui, bien sûr, le problème qui est posé par ces bombardements. Alors, l'enceinte effectivement diplomatique, mais aussi un pays qui vient et qui va attaquer des lieux dans un autre pays. De toute façon, c'est une agression, bien sûr. Oui, très
oui, ce qui est intéressant, et Agnès le rappelait tout à l'heure, c'est que la Syrie est militairement alliée de Moscou. Je dis oui. Militairement parce qu'il y a une base aéronavale à Tartous et que Alep, enfin, les aérodromes d'Alep et de Damas sont régulièrement bombardés par l'armée israélienne. Donc aujourd'hui, la Russie veut organiser une réunion au Conseil de sécurité, c'est très très joli. Mais en réalité, les Russes, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec les Arméniens face aux Azerbaïdjanais il y a quelques mois de cela, abandonnent en fait en rase campagne le pouvoir syrien.
La question qu'on se pose tous maintenant, c'est quelle peut être la réponse de l'Iran. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que Israël n'a pas volonté de pousser l'Iran à la faute? Et vous avez rappelé en début d'émission, Frédéric Ancel, qu'ils avaient dit, en cas d'intervention terrestre à Gaza, nous interviendrons. Agnès Levallois, je me retourne vers vous. Est-ce qu'à un moment donné, l'Iran va réagir? Alors, elle le fait par l'intermédiaire de ses satellites, de ses proxys, comme on les appelle, mais est-ce que vous, à la place qui est la vôtre, avec la connaissance du terrain qui est la vôtre, vous vous dites, cette fois-ci, ils ne peuvent pas ne pas réagir?
Alors, moi, je continue à penser qu'ils ne vont pas, enfin, qu'ils n'ont aucune intention de réagir. Mais il y a un moment où, effectivement, comment mettre en concordance le discours qui est tenu par l'Iran et la réalité? Je continue à penser que les Iraniens sont des stratèges, hein, ils le démontrent maintenant depuis, j'allais dire, depuis toujours, et qu'ils savent très bien que s'ils rentrent dans cet engrenage, ils vont absolument tout perdre.
Pourquoi?
Parce que militairement parlant, ils n'ont absolument pas les moyens de pouvoir s'affronter à Israël, qui est soutenu par les Américains et qui bénéficie du matériel le plus performant qui existe. Je rappelle que l'Iran est un pays sous sanctions depuis des dizaines d'années. Et donc, il y a beaucoup de combattants, il y a beaucoup d'hommes pour se battre, mais qui ne disposent pas du matériel équivalent à celui d'Israël, parce qu'Israël est soutenu par les Américains. Alors, ce dont dispose l'Iran et qui est redoutable, c'est toute cette industrie de drones et de missiles et qui a fait des progrès considérables ces dernières années, puisque l'on voit qu'ils sont capables d'envoyer des drones à travers leurs satellites ou leurs proxys. Donc, ils ont une capacité de nuisance qu'il ne faut absolument pas sous-estimer et qu'ils utilisent. Mais directement, eux, que l'Iran directement rentre en guerre, ça, j'ai beaucoup de mal à y croire, parce que l'Iran perdrait absolument tout de par ce déséquilibre stratégique. Il n'y a aucune parité stratégique entre l'Iran et Israël.
Mais il n'y a pas une pression de la rue, je ne sais pas si ça a du sens de poser cette question, arrêtez-moi, est-ce qu'à un moment donné, l'Iran, voyant aussi ce qui se passe à Gaza, on a entendu aussi ce que disait le Hezbollah qui promettait une réplique, etc., est-ce qu'il n'y a pas une pression qui s'exerce sur cette puissance régionale qu'est l'Iran?
En même temps, si vous regardez l'histoire du Liban, le Hezbollah fait ses déclarations, mais les Libanais, dans leur majorité, sont tétanisés à l'idée d'une nouvelle guerre sur leur territoire. Il y a des bombardements, et déjà ça les traumatise, mais ils ne veulent surtout pas d'une guerre qui va détruire une fois de plus ce pays, qui est dans un état déjà de délabrement avancé dans absolument tous les domaines.
Donc ça veut dire que l'Iran ne fait peur à personne?
L'Iran fait peur de par sa capacité de nuisance et sa capacité à travers des actions qui sont menées par l'intermédiaire des Houthis, par exemple, en mer Rouge, par le Hezbollah quand même, qui va attaquer le nord d'Israël et qui donc traumatise la population israélienne. Cette capacité existe. Mais de là à rentrer en guerre, c'est une autre...
Mais est-ce qu'à un moment donné, pardon, mais il n'y a pas une perte de crédibilité de la part du régime iranien?
Ça,
de dire, attention, si vous rentrez dans Gaza, cette fois-ci, ça va mal se passer. Attention, si vous frappez l'annexe d'une ambassade, on est très mécontents. Au final, à un moment donné, est-ce que la crédibilité de cette puissance régionale se joue aussi sur sa capacité à répondre?
Bien sûr, mais sa crédibilité, elle a été perdue déjà il y a quelques années, surtout en 2020, lorsque Donald Trump donne l'ordre de tuer Rassem Soleimani, qui n'est pas un des gardiens qui a été tué hier à Damas. C'était le chef absolu de cette branche militaire extérieure de l'Iran. C'était pratiquement un dirigeant de la République islamique. La réponse, elle a été à minima de l'Iran. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Iraniens? Ils ont tiré sur un avion de ligne qui a tué 176 Iraniens. Donc c'était ça la réponse. Donc déjà, ils ont perdu leur crédibilité là. Mais effectivement, leur capacité de nuisance, leur capacité d'ingérence, tous ces satellites qu'ils ont développés un peu partout au Moyen-Orient fait peur. Mais quand vous regardez, on va sûrement en parler, du nucléaire, ça peut aussi expliquer pourquoi les chancelleries occidentales, même avec ce qui s'est passé en 2022-2023, la plus grande contestation jamais vue depuis l'instauration de la République islamique contre ce régime, les chancelleries occidentales n'ont pas bougé non plus.
Ouais. Alain Pirot, qu'est-ce que l'on craint, au fond, du côté des états-majors, du côté des chancelleries, lorsqu'on évoque le risque d'embrasement, le risque d'escalade? On n'est pas les seuls ici à se poser cette question après ce qui s'est passé ces dernières heures. Qu'est-ce qui est redouté? Le pouvoir de déstabilisation? Une frappe sur quelle cible en particulier?
On craint la manière dont Téhéran pourrait relâcher la bride sur un certain nombre de proxys. Je m'explique, c'est que fin janvier, vous aviez eu un certain nombre de milices pro-iraniennes qui avaient envoyé des drones sur des garnisons américaines, sur une garnison américaine, et qui avaient tué 3 soldats et blessé une trentaine. Vous avez eu après 2 mois de calme. C'est-à-dire que très clairement, Téhéran a limité les actions de ces milices pro-iraniennes en disant « là, c'est allé un peu trop loin ». Et quand on parlait d'une stratégie assez fine de Téhéran, on est dedans. C'est-à-dire une capacité à contrôler vraiment les agissements. Ce qu'on peut craindre, c'est une manière de dire à tous ces acteurs parallèles une manière d'agir sur un certain nombre de jours ou de semaines. Là, je ne suis pas dans les secrets de Téhéran, mais en tout cas, c'est ce que craignent un certain nombre d'états-majors. On voyait les déclarations de retour de mission de la frégate française qui disait « ne sous-estimons pas les outils, ils savent très bien utiliser les équipements qui sont à leur disposition ». Donc ça montre bien qu'il y a une crainte sur la manière d'agir de ces acteurs parallèles, sur une réaction concrète de Téhéran.
Vous êtes en train de nous expliquer, les uns et les autres, depuis le début de cette émission, que non, l'Iran ne ciblera pas Israël parce qu'il n'en a pas les moyens, mais en revanche, peut activer contre les Occidentaux, contre les Américains, ces intermédiaires, ces proxys, comme vous les appelez, c'est-à-dire ces milices.
Ben, c'est à quel point ils sont prêts à prendre l'équation du risque de tout perdre. Ouais. C'est ça, la réalité. Ouais. Et pour moi, ils ont un élément majeur qui leur permet de peser sur la diplomatie internationale, c'est le nucléaire.
On va en parler.
Ouais. C'est très clairement l'élément principal aujourd'hui qu'ils peuvent utiliser comme une manière de dire...
Et qu'ils utilisent, on le verra dans un instant. Un mot sur le Hezbollah et sur ce qui se passe au Liban. Là aussi, on regarde l'éventuel dérapage. On a entendu tout à l'heure le ministre de l'armée israélienne qui disait, au fond, on se prépare à monter en pression, quoi.
Oui, c'est ça. D'abord, c'est le proxy le plus puissant et le plus obéissant, et le mieux armé, bien évidemment. Le plus lointain en date, d'ailleurs, il est écrit en 82, ex nihilo, par Téhéran, il lui obéit religieusement et politiquement au doigt et à l'œil. Et d'ailleurs, les Israéliens, à chaque fois qu'il y a une montée de tension avec le Hezbollah, disent, puisque c'est comme ça, on va les taper à la tête, c'est-à-dire à Téhéran. Enfin, je veux dire, en tout cas, les Iraniens, c'est exactement ça qui vient de se produire de nouveau. Moi, je dirais qu'il y a aussi une...
C'est lié, du coup ?
Ah, c'est complètement lié. Ah, pour moi, c'est complètement lié. Ouais. C'est absolument lié à la montée de tension très forte qui existe à la frontière entre Israël et le Liban depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. On a oublié, on n'a pas encore parlé d'une stratégie de contournement qui a déjà été utilisée par le Hezbollah et peut-être les services de renseignement iraniens, c'est de frapper des civils et notamment des diplomates israéliens à travers le monde. Hein, ça s'était fait il y a quelques années en Bulgarie. Ça s'est produit en Argentine en 94. Hein, il y a eu plus de 100 morts et c'était pas du tout c'était même pas des Israéliens, c'était la communauté juive d'Argentine. Et la piste principale, c'est le Hezbollah. Donc il y a aussi cette possibilité, et là aussi, donc on a ce qu'on appelle une capacité de nuisance, stratégie de contournement, qui n'a évidemment jamais été revendiquée. Si vous ne le revendiquez pas politiquement, vous prenez moins de risques, par définition. D'accord. Et donc ça peut être également utilisé. Mais je rejoins ce qui a été dit, les Iraniens risqueraient, et le Hezbollah d'ailleurs a perdu énormément d'hommes et de matériel depuis le 7 octobre dernier, puisqu'on est de part et d'autre de la frontière, approximativement, à 17 tués du côté israélien et 450 du côté du Hezbollah. Mmh. Plus un aérodrome, plus un certain nombre de matériel extrêmement précieux. Et effectivement, une grande partie de la population libanaise craint comme la peste l'extension du conflit et une nouvelle campagne de bombardement sur le Liban.
Est-ce que Netanyahou veut ouvrir un second front ?
Alors, moi, je pense que Netanyahou, il veut d'abord rester au pouvoir. Ça, enfin, je pense que c'est une surprise pour personne. Et dans la population israélienne, on est systématiquement entre 70 et 81%. Je scrute toutes les enquêtes d'opinion très libres en Israël et à un rythme pluri-hebdomadaire depuis le 7 octobre. Défavorable au gouvernement. Donc, c'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. D'une part. D'autre part, tous les otages n'ont pas encore été libérés à Gaza. C'est même le moins qu'on puisse dire.
130 otages.
Voilà. Et un peu plus de 200 000 Israéliens vivant au nord du pays, donc en Galilée, ne peuvent pas vivre chez eux puisque le Hezbollah maintient une pression balistique très importante donc via ses missiles et ses roquettes. Et donc, il doit démontrer qu'il peut remporter des victoires, même si ce sont des victoires tactiques. Hein. Donc, il y a effectivement chez Netanyahou et son gouvernement de plus en plus rencontrant une hostilité de plus en plus forte chez les Israéliens, la volonté de montrer en tout cas qu'il n'est pas faible.
Mmh.
Oui, je suis convaincue que Netanyahou aujourd'hui, qui est vraiment quand même une espèce d'impasse, puisqu'à Gaza, il ne peut pas montrer ses résultats, même si l'opération autour de l'hôpital Al-Shifa a permis de dire que 200 combattants du Hamas avaient été tués. Mais en tous les cas, les objectifs de guerre, ils ont des prises importantes de hauts responsables du Hamas, ça n'a pas été le cas. Et donc, je pense qu'il peut être tout à fait tenté d'ouvrir ce deuxième front avec le Liban et avec le Hezbollah.
Pourquoi ?
Pour dire, eh bien, écoutez, on va retrouver la force qui était la nôtre, qui a été mise à mal par le massacre du 7 octobre, puisque du coup les services de renseignement israéliens et l'armée a été prise au dépourvu. Et donc cette parité stratégique que voulait imposer Israël, on est les plus forts et c'est nous qui décidons du tempo. Là, il y a eu une remise en cause de cela. Et ce qui était le maître mot d'Israël, sécurité pour tous les Israéliens et les Juifs à travers le monde qui veulent venir en Israël, a été remis en question. Et donc il y a un besoin pour Netanyahou de recréer cette supériorité et de dire aux Israéliens, on va retrouver cette sécurité qui est la raison même de la création de cet État d'Israël. Et le fait que ce fondement même ait été remis en question est quelque chose dans l'esprit de Netanyahou et de l'armée qui est très fort. Et donc de vouloir montrer qu'effectivement, Israël va créer une zone de sécurité de plusieurs kilomètres à l'intérieur du sol libanais, hein, pour justement éviter dans leur état d'esprit qu'une opération équivalente à celle du 7 octobre puisse être organisée par le Hezbollah vers le nord d'Israël. Et ça, c'est fondamental.
Et si on compare la puissance de feu du Hezbollah et du Hamas ?
Ah ben, la puissance du feu du Hezbollah est absolument est vraiment importante. Oui. Mais moi, là, je diverge un tout petit peu avec ce qui a été dit à l'instant. C'est que effectivement, le Hezbollah prend ses ordres. Enfin, l'Iran a une autorité indéniable sur le Hezbollah, mais le Hezbollah a aussi son agenda politique au Liban, et que même s'il suit ce que lui demande de faire l'Iran, il y a quand même une marge de manœuvre de tous ces proxys pro-iraniens dans la région, Hezbollah y compris, qui ont quand même leur agenda et qui font en sorte que leurs intérêts quand même soient mis sur la table.
Mais qui ne résisteraient pas à une injonction de l'Iran.
Une injonction et je crois quand même qu'il y a une certaine marge qu'il ne faut pas sous-estimer.
Voilà. Cette question de Régis en Côte d'Or, à force de lancer des frappes aériennes au-delà de la bande de Gaza, au Liban et en Syrie, l'État d'Israël va-t-il embraser le Moyen-Orient ?
Ben, y a un risque, parce que même si on considère, je pense tous autour de cette table, que personne ne veut de cela, c'est ce qu'on dit pratiquement depuis le début, il y a un dérapage.
Disait aussi, pardon de le rappeler, c'est sans être désagréable, que Vladimir Poutine n'avait aucun intérêt à envahir l'Ukraine. On se souvient de cette discussion qu'on avait ici même autour de la table avec d'autres experts.
Bien sûr, que je pense que quand on analyse ce que nous faisons ce soir, le démontre qu'il n'y a personne ne veut aller dans cette escalade. Mais il y a un moment où on ne peut plus tout contrôler, forcément tout contrôler. Et donc ce dérapage, on ne peut absolument pas l'exclure.
Mm-hmm. Alain Pirot ?
Il y a une réalité, c'est que Netanyahou n'écoute personne.
Absolument. Ouais.
Et donc le risque de ce qui se passe actuellement, c'est sa capacité à lui-même s'astreindre de certains agissements. Il y a eu visiblement, et si l'entourage de Joe Biden nous le rapporte, c'est pas pour rien, des échanges musclés d'insultes, en tout cas, une fois raccroché le téléphone, visiblement Joe Biden avait quelques insultes à l'encontre de son homologue israélien. Donc ça montre bien que dans une logique d'agenda politique intérieur, Netanyahou est rentré dans une logique où il n'écoute pas beaucoup la partie américaine. Je trouve que l'utilisation d'ailleurs de l'avion F-35 a une symbolique pas anodine. C'est un avion où un certain nombre de composants sont fabriqués en Israël et c'est un avion américain. C'est une manière de dire aussi, vous ne pouvez pas faire sans nous. Donc, quelle est la finalité de cet agenda ? Je crois qu'une partie appartient en réalité à Netanyahou.
Puis il anticipe aussi le départ probable de Joe Biden à la fin de cette année. Il y a un retour potentiel de Donald Trump qui est un allié d'Israël. Rappelons-nous que Donald Trump a quitté de manière unilatérale le traité sur le nucléaire iranien de 2015, qui a affiché notamment son gendre à sa grande proximité avec la famille Netanyahou. Ne pas oublier aussi, on parlait de son impopularité, il y a des manifestations et des milliers d'Israéliens qui campent depuis 3 jours devant la Knesset ou à Jérusalem pour un départ de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire qu'il le sait très bien, il est extrêmement impopulaire, il a aussi des casseroles judiciaires qui l'attendent, et le seul moyen de redorer son blason, c'est sur le terrain militaire.
C'est le terrain militaire. On rappelle aussi que les manifestations se font pour la libération des otages, considérant qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour la libération des otages.
Oui, ouvrir un second front, pourquoi pas. Après, il faut être à peu près sûr de l'emporter, hein. Parce que si vous voulez, le Hezbollah, c'est pas le Hamas. Hein. D'abord, il y a une profondeur géographique qu'il ne faut jamais oublier, d'une part. D'autre part, sur une bonne partie du Liban et sur la Syrie. Et d'autre part, sur le plan balistique, donc les missiles. Hein. Le ouais. Hezbollah.
Missiles est, de précision, roquettes.
Ouais. Ah oui, de dizaines de milliers d'engins. Donc,
350 000.
Voilà, ouais. C'est ça. Donc, c'est une partie de l'état-major, en tout cas, serait certainement beaucoup plus rétif que Netanyahou lui-même à lancer une grande offensive contre le Hezbollah.
On voit le chef du Hezbollah, prend-il ses injonctions à Téhéran ?
Oui, pour l'essentiel. Ouais. Je suis d'accord avec Agnès. Il y a une marge de manœuvre, notamment parce que le Hezbollah ne veut pas tout perdre. Et il n'est pas majoritaire au Liban. Hein. Et, alors, il laisse en doute chez les chiites, il n'est pas majoritaire au Liban. Et par ailleurs, il est, en tout cas sur le plan religieux, politique et économique et militaire, quand même largement inféodé à Téhéran. Sans Téhéran, le Hezbollah, ce ne serait pas grand-chose.
Hein. Qui déciderait d'une intervention en Iran ? Qui prend la décision ?
Ali Khamenei.
Ah oui, naturellement le guide suprême.
Le guide suprême.
Qui serait.
Parce qu'on parle toujours, ce qui est d'ailleurs un terme galvaudé, et que moi je ne suis pas très fan de ce terme, le régime des Mollahs, ce n'est pas qu'un régime des Mollahs, c'est un régime théocratique et militaire.
On voit souvent les images du président Raisi, en fait il ne désigne de rien.
Personne. Mais par exemple, même les élections parlementaires, les élections législatives qui ont eu lieu début du mois de mars, c'est rien du tout. Le vrai dirigeant de l'Iran, c'est lui qui prend les décisions sur la politique étrangère, sur le nucléaire. Si l'Iran était au courant de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est le guide suprême Ali Khamenei qui était au courant. C'est lui qui est vraiment la pierre angulaire du régime. Il tient le régime.
Le fait que, dans leur première réaction, les Iraniens disent il y aura une réponse, alors on verra à quoi elle peut ressembler, vous nous avez donné quelques pistes, et le fait qu'ils ciblent les Israéliens et les Américains, c'est un classique.
Oui, bien sûr, parce que pour eux, les Israéliens sont inféodés aux Américains et vice-versa. D'ailleurs, Abdollahian, le ministre iranien des Affaires étrangères, est parti voir le chargé d'affaires suisse parce qu'il n'y a plus d'ambassade américaine à Téhéran. Donc c'est la Suisse qui fait office un petit peu de relations diplomatiques avec les États-Unis. En tout cas, c'est comme ça que les Iraniens passent des messages. Il l'a bien dit publiquement.
Alors c'était curieux cette phrase, merci d'en parler, parce qu'effectivement, on ne savait pas quoi en faire. On a appris qu'il était allé voir donc, cet intermédiaire suisse en disant « j'ai un message, mais je vous dis je ne dirais pas lequel est-il. C'est une menace.
C'est une menace, mais c'est exactement ce qu'on se disait. Ce même ministre des Affaires étrangères qui dit si jamais il y a une offensive terrestre à Gaza, on va répliquer. Bon, il n'y a toujours pas de réplique iranienne ou alors à la marge et pas en tout cas contre Israël. Ils sont obligés. Le système de la République islamique, parce que c'est un système avec le guide suprême et les gardiens de la révolution, sont obligés pour garder la face. Ils l'ont perdu vis-à-vis de leur population, donc d'une grande une partie de leur population.
Pourquoi vous dites qu'ils l'ont perdu ?
C'est-à-dire que si vous voulez, ça montre. Ça fait des années que le régime veut asseoir sa puissance et dire aux Iraniens, regardez comme nous sommes puissants, regardez comme nous sommes un pays sûr. Mais il y a eu un attentat encore il n'y a pas très longtemps à Kerman qui a fait 85 morts. Absolument. Qui montre qu'il y a des infiltrations de l'État islamique en Iran. Fakhrizadeh en 2021, au début des années 2020, pardon, c'est quelqu'un qui est un Iranien, un scientifique qui est lié au programme nucléaire iranien, qui est tué sur le sol iranien par le Mossad. Mossad est présent en Iran. Donc c'est-à-dire que les services israéliens, les services de renseignement israéliens sont infiltrés vraiment dans le système de la République islamique. C'est-à-dire qu'ils ont accès à des informations, comme ils ont eu accès à cette information qu'il y avait une réunion à telle heure, tel jour, à l'ambassade, au consulat iranien. Et ça, c'est un aveu de faiblesse énorme pour le régime.
N'ayons pas peur de l'Iran, en fait.
Il faut avoir peur de l'Iran pour beaucoup de raisons, parce que l'Iran, c'est deux armées, c'est potentiellement une puissance nucléaire, c'est un État qui ne répond à aucune norme internationale et qui peut être imprévisible s'il se sent menacé. Si le régime sent que sa survie est menacée, rien, personne ne peut prédire comment il peut réagir.
Et en même temps, c'est un État, et on le voit bien depuis même le 7 octobre, qui, en dépit de déclarations très fortes, n'a pas fait grand-chose directement. En tous les cas, il n'a rien fait parce qu'il ne veut pas prendre le risque d'être la cible d'attaque. Souvenez-vous, quand le porte-avions américain est arrivé en Méditerranée, et c'était la crainte que ce soit dirigé contre l'Iran, et l'Iran a adopté à ce moment-là des propos visant à calmer le jeu pour ne pas être la cible des Américains. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que l'Iran sait qu'il n'a pas les moyens de tenir tête. Et que s'il y a des attaques israéliennes et ou américaines sur le sol iranien, ça veut dire que ça va remettre en question le programme nucléaire, parce que c'est ça qui sera visé, et que pour l'Iran, ce sera un risque beaucoup trop grand à prendre.
Et ça, on va en parler du nucléaire, promis. C'est quoi la ligne rouge, à votre avis, du régime iranien? Puisqu'on dit l'intervention terrestre à Gaza, bon, finalement il ne s'est rien passé.
Les frappes en Iran.
Ouais, c'est vraiment la frappe en Iran.
Alors qu'elles n'ont jamais été évidemment revendiquées politiquement. Le jour où Israël revendique politiquement une frappe en Iran, oui, évidemment,
c'est là, on rentre dans autre chose. Ouais. Alors, 2024 sera-t-elle l'année de la bombe nucléaire pour l'Iran ? L'Agence internationale de l'énergie atomique multiplie mois après mois les alertes et affirme que le pays détient 27 fois plus que la limite autorisée par l'accord de 2015 et pourrait même compter sur l'aide d'un allié de poids et d'une autre puissance nucléaire. La Russie, Anne Maquignon, Mathieu Lignot et Stéphane Lopez.
Et si l'Iran possédait déjà la bombe nucléaire ? Depuis le mois dernier, les activités iraniennes inquiètent un peu plus encore les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Je ne dispose d'aucune information indiquant que l'Iran est en train de fabriquer une arme nucléaire, mais j'entends ce qu'ils disent et je pose des questions. Deuxièmement, je dirais que l'Iran est le seul pays qui ne possède pas d'armes nucléaires et qui enrichit de l'uranium à 60% et accumule de l'uranium enrichi à 60%, ce qui est très élevé.
Selon le dernier point d'étape, les stocks d'uranium enrichi s'élevaient mi-février à plus de 5525 kilos en Iran. Une tonne de plus que trois mois plus tôt, et surtout bien au-delà des 300 kilos autorisés par l'accord international de 2015, encadrant les activités atomiques du pays.
Très concrètement, ça veut dire que si le régime iranien décide de se doter de l'arme nucléaire, il peut accumuler assez de matières fissiles, donc de matières explosives, donc en l'occurrence de l'uranium enrichi, en moins d'une semaine. Ça ne veut cependant pas dire qu'ils auront une arme fonctionnelle en une semaine, parce qu'une fois que vous avez la matière fissile, la matière atomique, il faut encore lui faire subir des processus de militarisation, de miniaturisation, la mettre sur un vecteur, donc par exemple un missile balistique.
Un processus qui pourrait prendre 1 à 2 ans. Qu'il est loin, le temps où l'Iran coopérait. 2015, le pays accepte de réduire ses activités nucléaires, en échange d'une levée progressive de la plupart des sanctions internationales. C'était sans compter sur Donald Trump. En 2018, les États-Unis se retirent de l'accord.
L'Amérique sera beaucoup plus sûre. Merci beaucoup.
En une signature, l'ancien président américain balaye des années d'efforts visant à empêcher le développement d'une bombe nucléaire.
L'Amérique ne sera pas l'otage du chantage nucléaire.
Depuis, les interrogations demeurent, même si le régime iranien assure régulièrement ne pas vouloir se doter d'une bombe.
Nous ne voulons pas aller vers l'arme nucléaire sur la base de nos principes islamiques.
En parallèle, pourtant, l'Iran maintient le mystère et restreint sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les inspections de l'agence de l'ONU sont réduites, des caméras de vidéosurveillance débranchées et des accréditations d'experts supprimées. De quoi sérieusement inquiéter les États-Unis.
Nous restons préoccupés par l'expansion du programme nucléaire iranien qui n'a aucune finalité civile crédible, y compris la poursuite de la production d'uranium hautement enrichi.
Et pendant que certains s'inquiètent, l'Iran pourrait-il recevoir le soutien de pays amis comme la Russie ? Le pays de Vladimir Poutine l'a déjà aidé à développer du nucléaire civil et de recherche au début des années 2000, mais n'aurait pas grand intérêt à voir se développer à ses frontières une nouvelle bombe nucléaire.
On sait très bien que la prolifération nucléaire a des vertus déstabilisatrices. Le dernier État à posséder l'arme nucléaire récemment, c'est la Corée du Nord. On n'a pas du tout intérêt à voir une nouvelle Corée du Nord émerger et encore moins au Moyen-Orient. Et donc tous les États dotés, qu'ils soient proches ou non, alignés ou non avec l'Iran, font pression sur l'Iran pour que le régime ne développe pas l'arme nucléaire.
Une arme nucléaire en Iran pourrait avoir des conséquences dans la région et pousser d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou encore l'Égypte à se lancer à leur tour dans la course à la bombe atomique.
Et cette question de Mathieu en Haute-Corse, comment saura-t-on que les Iraniens détiennent l'arme atomique en surveillant leurs essais ?
Il y a des enquêtes de l'AEA. Non, mais en fait, Raphaël Grossi, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas d'informations. C'est ce que dit très bien le reportage. Les caméras ont été coupées. En fait, quand Donald Trump sort de l'accord sur le nucléaire en 2018, il y a quelques mois de fautement. Et puis en 2019, les Iraniens reprennent l'enrichissement. Il est, par l'accord nucléaire de Vienne de 2015, limité à 3,67% cet enrichissement d'uranium. Aujourd'hui, on a plus de 60%. C'est énorme. Il faut 90% pour avoir la bombe. Et comme comme on ne sait pas ce qui se passe là-bas, il n'y a pas d'inspection. Alors Raphaël Grossi est cordialement invité par les autorités iraniennes le mois prochain à venir voir. En tout cas, Ebrahim Raisi, il y a le mois dernier, a annoncé la construction d'une nouvelle centrale dans le golfe Persique. On sait que la centrale de Bouchehr, qui était l'une des plus connues avec Natanz, fonctionne bien.
Ils sont peut-être déjà à 90.
Personne ne le sait, parce que alors, ils n'ont pas la technologie. Ils n'ont pas. C'est vrai que quand cet accord est signé, et d'ailleurs, je me rappelle de débats extrêmement houleux au Parlement iranien où on menaçait de couler le ministre iranien de l'époque, Mohammad Javad Zarif, dans le béton, je cite, des parlementaires iraniens, parce que pour eux, Zarif et Hassan Rouhani vendaient l'Iran aux Américains. Il ne fallait pas faire confiance aux Américains. Ils avaient réduit quand même drastiquement leur programme. Ils avaient fermé 4/5 de leur centrale et ils avaient réduit cet uranium. Est-ce que l'Iran est au seuil de la bombe, ce qu'on appelle le breakout time, c'est ce moment où l'Iran aura la bombe et qu'on ne pourra pas revenir en arrière, c'est ce que laisse sous-entendre Raphaël Grossi depuis des mois. C'est qu'à un moment donné, on va se réveiller et l'Iran aura la bombe. Et ça explique aussi possiblement l'inaction des diplomaties occidentales à intervenir en Iran, à réagir. D'ailleurs, une résolution de il n'y a pas eu de résolution depuis 2022 contre l'Iran à l'AIEA, une résolution des pays européens contre l'Iran parce qu'il ne faut pas brusquer l'Iran.
Je veux dire, donc sans avoir peut-être l'arme nucléaire, ils ont déjà tous les avantages de dissuasion de l'arme nucléaire.
Il y a des analystes qui estiment que l'Iran pourrait être en capacité d'avoir par exemple 3 ogives nucléaires. C'est un chiffre qui est évoqué par certains analystes. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils développent leur nucléaire, ils développent leur capacité balistique avec des missiles qui ont des portées de plus de 2000 km, donc qui peuvent atteindre potentiellement le territoire israélien. Donc l'Iran est en train de se préparer, de se protéger, ouais. Le lapsus. Ouais. Mais en tout cas, la chute de Saddam Hussein en 2003, très facilement, après l'invasion américaine, a laissé des stigmates auprès du régime iranien. Et ils se sont dit, l'arme nucléaire est aussi un moyen de protéger le régime et de se prémunir d'une guerre.
Alain Pierrot.
Je pense, vous montriez Donald Trump dans le reportage, ouais. Je pense qu'on ne se rend pas toujours compte des conséquences qui arrivent, qui s'égrènent au fil des années de la sortie de cet accord du nucléaire, que les Iraniens jouaient le jeu, très clairement, il faut aussi le dire, qu'ils ont...
Ils disaient que non, hein. Donald Trump.
Oui. Alors
les Donald Américains, Trump, partie des Américains disaient que non, et c'est même pour ça qu'ils en sont sortis de cet accord.
Il était imparfait, cet accord. De toute façon, il se terminait l'année prochaine, en 2025.
In fine, je trouve que dans bon nombre d'endroits, d'ailleurs, ce qui se passe, on l'évoque en Europe de l'Est ou en Ukraine, je trouve qu'on ne visualise pas encore toutes les conséquences de bon nombre d'accords diplomatiques qui ont échoué, qui se sont arrêtés. Je trouve qu'on le vit très clairement à ce moment clé au Proche-Orient et en Ukraine. De là, imaginez la conséquence. Moi, pour moi, la partie est perdue sur le nucléaire iranien. Je ne vois pas les Iraniens revenir ou alors en jouant une carte diplomatique qui serait incroyable du point de vue intérieur. Mais je pense que la partie est perdue et qu'ils vont très clairement, compte tenu de la constitution d'un axe nouveau avec la Russie, avec la Chine, d'une division du monde qui a totalement évolué, je pense qu'ils vont très clairement dans cette logique d'assumer le poids qu'aura l'arme nucléaire dans leurs mains sur la scène internationale.
Et ça change tout, si c'est comme vous le décrivez, dans le rapport de force mondial, non ?
Pour moi, ça change tout, y compris au Proche-Orient. Ouais. C'est-à-dire que l'une des cibles de Netanyahou depuis des années à toutes les interventions à l'ONU, c'est l'idée que l'Iran est la bombe nucléaire. Donc là, ce serait l'achèvement de son pire cauchemar, même s'il ne sera plus au pouvoir peut-être à ce moment-là. Mais en tout cas, ça modélise un autre visage du Moyen-Orient.
Le projet de l'Iran est toujours de détruire Israël.
Alors, officiellement, il y a des déclats, mais officiellement, l'Iran a complètement admis la présence d'Israël, ce qui va pas empêcher dans les discours de dire autre chose. Mais je crois que ce qui est important dans le débat qui nous anime ce soir, c'est aussi de dire que pour l'Iran, les Américains, de toute façon, ne sont pas fiables, puisque la parole américaine n'a pas été tenue. Et donc, à partir de là, l'Iran se dit, alors qu'effectivement, l'Iran avait respecté les accords pendant les 3 ans entre 2015 et 2018, date de la sortie par Trump, l'Iran a respecté sa partie, et les Américains non. Et donc, aujourd'hui, les Iraniens considèrent qu'ils ne peuvent absolument plus faire confiance aux Américains. Et quand Biden arrive au pouvoir et veut renégocier l'accord, les Iraniens, enfin une partie des Iraniens, se dit mais pourquoi on va renégocier avec Biden si Biden, au bout de 4 ans, n'est plus président et qu'un autre vient du genre de Trump. Bon. Et donc cette confiance qui avait permis, difficilement, l'accord était imparfait, il y avait beaucoup de choses à revoir, mais cet accord est fondamentalement la relation entre les deux est complètement mise à mal parce qu'il y a eu ce retrait. Et donc ce qui a entraîné l'Iran dans l'idée selon laquelle, eh bien, il reprend sa liberté, il a besoin d'avoir cette dissuasion, puisque le nucléaire, c'est avant tout de la dissuasion, d'avoir de la dissuasion pour s'imposer comme une puissance régionale et une puissance
qu'il
qu'on
n'est
respecte.
Pas encore.
Non, parce qu'il n'y a pas encore, mais en voie d'eux.
D'accord.
Je ne crois pas beaucoup à ce schéma. Moi, je pense que la République islamique d'Iran veut d'abord rester au pouvoir. Or, les contestations qui s'accumulent ces dernières années sont de plus en plus graves sur le régime. Et la bombe, ça ne se mange pas. On ne peut pas en faire un médicament. On ne peut pas nourrir les gamins avec. Or, en Iran, la situation est extrêmement grave, notamment d'ailleurs du fait des sanctions, dont le premier train, d'ailleurs, a été impulsé par l'ensemble des nations, y compris les Russes et les Chinois, hein, ce qui est intéressant, le 1er janvier 2007. Donc, ça fait quand même très longtemps que ce pays est sous sanctions. Et si en 2015, le régime avait accepté de renoncer pour l'essentiel au nucléaire, pourquoi aujourd'hui ne le ferait-il pas, sachant que la Chine, tout à l'heure vous avez parlé d'un axe, moi je veux bien qu'il y ait un axe de la résistance avec donc les chiites irakiens, le Hezbollah, les Houthis. La Russie peut-être, sauf que la Russie laisse, comme on l'a dit, complaisamment la Syrie se faire écraser par les chasseurs-bombardiers israéliens. Mais surtout, la Chine est une puissance ultra-conservatrice sur le nucléaire. À chaque fois, c'est-à-dire 5 fois, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que Vladimir Poutine a brandi les risques d'apocalypse, comme il le dit régulièrement, à chaque fois, les Chinois lui tapent sur les doigts. La Chine est une puissance qui ne veut absolument pas revenir au traité de non-prolifération de 1968.
Ce sont les seuls qui peuvent arrêter l'Iran.
Ah, et moi, je pense que la Chine, aujourd'hui, peut beaucoup plus arrêter l'Iran que la Russie. Pourquoi ? Parce que la Chine tient à bout de bras l'économie iranienne en rachetant son pétrole dans des quantités astronomiques. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je ne crois pas beaucoup à un axe qui soutiendrait aujourd'hui Téhéran. Et j'ajoute un dernier point, je ne sais pas dans quelle mesure les hommes au pouvoir à Téhéran aujourd'hui considèrent la capacité et la volonté d'Israël de les empêcher d'avoir la bombe. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Netanyahou, c'est que c'est une chose, et l'état-major, c'en est une autre. Les Israéliens, à mon sens, je peux me tromper, ne laisseront pas l'Iran avoir la bombe atomique.
Raphaël Grossi ne sait rien, mais eux savent à quel stade ils en sont.
Je ne sais pas s'ils savent à quel stade ils en sont, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les Israéliens ne laisseront pas l'Iran être doté d'une bombe atomique pouvant les toucher, puisque maintenant, effectivement, sur le plan balistique, on peut.
Donc, on en revient aux frappes sur le territoire iranien contre des infrastructures nucléaires.
Et c'est la raison pour laquelle les Israéliens, année après année, démontrent, et c'était très bien rappelé tout à l'heure, qu'ils sont capables d'empêcher tout ou partie le nucléaire iranien.
Et c'est pour ça que les Iraniens ne veulent absolument pas prendre le risque de confrontation pour pas venir, qu'on vienne détruire leurs installations parce qu'ils
c'est
sont en train
clair.
D'avancer.
Tout se tient. Merci de votre clarté ce soir. Cette question de Jean-Pierre dans le Loir-et-Cher. Joe Biden va-t-il accepter sans réagir la mort des membres de l'organisation humanitaire américaine? Comment a-t-il réagi? Cet humanitaire tué donc à Gaza, c'est une ONG qui s'appelle World Central Kitchen. L'équipe se déplaçait dans une zone sans combat à bord de 2 voitures blindées portant le logo WCK et d'un véhicule non blindé. C'est ce qu'a dit l'ONG aujourd'hui. Comment peut réagir les Américains?
Il faut relativiser la position américaine. Moi, je suis frappée. C'est vrai que depuis qu'il y a eu le veto, l'abstention américaine à la résolution de l'ONU, on dit que la tension est vive entre les deux. C'est vrai que Biden est exaspéré par Netanyahou, c'est une évidence. Mais le lendemain, les États-Unis ont continué à fournir des munitions et des avions à Israël.
D'accord.
Donc, il faut
ils
être
n'ont pas
clair,
lâché Israël.
Ils ne vont absolument pas lâcher. Donc, ils ont donné ce gage en s'abstenant, mais ils ne sont pas prêts de lâcher Israël. Donc, il va y avoir effectivement ces propos de Biden, plein d'empathie à l'égard de ces humanitaires tués, ce qui est dramatique. Mais ils vont demander des comptes, une enquête, mais ça n'ira pas, à mon avis, tellement plus loin.
Mais vous êtes d'accord pour dire qu'ils n'ont plus de prise sur Netanyahou ?
Ils ont des prises. La prise, elle est, est-ce qu'on fournit de l'armement ou pas ? Donc la prise, elle existe. Est-ce qu'on veut l'utiliser ? C'est autre chose. Aujourd'hui,
donc
les
ça veut
Américains,
dire que sans le dire, il y a un assentiment sur ce qui est en train d'être fait à Gaza ?
Bien sûr, bien sûr. Même s'il y a des propos qui disent le contraire, ce sont les faits qui comptent. Et dans les faits, le soutien militaire américain n'a pas cessé et se renforce. Je rappelle juste, vous savez, quand à la fin du mandat d'Obama, Obama avait les pires relations avec Netanyahou. Et vraiment, il ne pouvait pas se supporter. Et au moment où Obama quittait la Maison-Blanche. Il a signé un accord militaire avec Israël qui était un des plus beaux, si je puis dire, accords militaires conclus. Donc tout ça pour relativiser, lorsque l'on parle de la tension entre Tel Aviv et Washington, à relativiser parce que dans les faits, le soutien continue à être inconditionnel.
Et on peut juste préciser qu'il y a eu sur ce sujet-là une réaction de Benjamin Netanyahou qui a dit « Malheureusement, hier lundi, s'est produit un incident tragique, nos forces ayant frappé de façon non intentionnelle des innocents dans la bande de Gaza. » Il parlait, pour le coup, de ces humanitaires américains.
Vous savez, je voudrais juste en profiter pour dire un mot. Ce qui est frappant quand on parle de ce sujet, c'est que la seule chose qui compte, ça serait de dire arrêtons les bombardements et laissons l'aide humanitaire entrer. Et on ne serait pas là à s'émouvoir du fait que des convois humanitaires sont bombardés. Et donc, revenons à l'essentiel, à l'origine, que Israël laisse les convois humanitaires rentrer et on ne serait pas dans cette situation absolument dramatique.
Oui, dans la dimension humanitaire de la guerre, à plusieurs reprises, Joe Biden a tordu le bras à Netanyahou, mais pas dans la dimension politique. Et ce qui compte dans la guerre, alors on peut s'en émouvoir, on peut s'en attrister, mais c'est évidemment la dimension politique.
Alors que plus personne, je parle sous votre contrôle, n'évoque des négociations entre Israël et le Hamas concernant un cessez-le-feu et la libération des otages, les équipes de C'est dans l'air sont allées interroger un prisonnier palestinien qui avait fait l'objet d'un échange lors de la deuxième vague de libération. Vous vous en souvenez, Ahmad fait partie des 2000 jeunes palestiniens emprisonnés en Israël. Il refuse d'évoquer le Hamas et raconte sa détention. Reportage Juliette Perrault et Pierre Dehorne.
Dans ce village de Cisjordanie, une scène a priori banale. Le câlin réconfortant d'un jeune oncle à sa petite nièce. Pourtant, derrière son sourire d'adolescent, Ahmad, 16 ans, raconte avoir vécu l'horreur. 17 mois enfermé dans une prison israélienne. Son témoignage est rare. Les Israéliens menacent tous ceux qui voudraient parler de représailles.
C'était vers 4 heures du matin, parce que je me souviens d'avoir entendu l'appel à la prière de l'aube. Les soldats ont réveillé toute la famille. Ils sont entrés dans la maison et ils ont rassemblé tout le monde dans le salon. Ils ont juste laissé ma mère avec moi. Ils m'ont jeté au sol et un soldat m'a écrasé le cou avec son genou. Ils m'ont frappé et ils ont pointé leur arme sur mon front. Ensuite, ils m'ont sorti par là et ils m'ont fait marcher jusqu'en haut de la pente. Ils m'ont mis un bandeau sur les yeux, ils m'ont attaché les mains et ils m'ont embarqué. J'ai pas compris ce qui se passait. J'avais peur.
Accusé d'avoir jeté des pierres sur des soldats israéliens, Ahmad est placé en détention administrative. Un mode d'incarcération sans inculpation formelle ni procès et qui peut être reconduit indéfiniment. Ici, la méthode est courante. Sa mère n'a même pas été étonnée.
Je m'attendais à ce que Ahmad soit arrêté, parce que ses frères ont déjà été arrêtés et emprisonnés. J'ai eu peur pour lui, qu'il soit frappé. Et bien sûr, j'étais triste, comme toute maman le serait quand l'ennemi enlève son enfant. J'avais peur qu'il soit humilié, qu'on lui fasse du mal.
Des craintes exacerbé après l'attaque du 7 octobre. Un tournant pour tous les Palestiniens emprisonnés en Israël. Ahmad n'a pas fait exception.
La guerre a tout changé. On devait rester dans notre cellule et on ne nous donnait plus que du riz à manger. On ne pouvait plus sortir dehors, on ne pouvait même plus prendre de douche. On devait garder les mêmes vêtements pendant des jours. Il y avait un seul repas par jour, un plat de riz qu'on devait se partager à 8 personnes. On nous le servait dans l'après-midi et après plus rien. Il faisait très froid dans les cellules. On avait un seul matelas et une couverture toute fine. On mourait de froid. On n'avait pas peur des Israéliens, mais d'être frappé, oui, moi ça me faisait peur. Et ils l'ont fait, ils nous ont frappés. Ils ont même lâché des chiens sur nous. On n'avait pas le droit de leur adresser la parole. Si on leur disait quelque chose, ils débarquaient dans les cellules et ils cassaient tout. On ne pouvait rien leur demander. On faisait tout ce qu'ils voulaient pour qu'ils ne nous fassent rien. Une fois, quelqu'un a été tabassé juste parce qu'il avait demandé des draps. Et puis, on devait rester allongé 24 heures sur 24.
L'adolescent fait partie de la deuxième vague de prisonniers, échangés contre des otages du Hamas. Sa mère ne répond pas à nos questions sur l'organisation terroriste. Mais lorsqu'on lui demande son avis sur l'autorité palestinienne...
L'autorité palestinienne, elle ne peut rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont pas capables de fournir de l'aide à qui que ce soit. Ce sont des collabos.
Un sentiment d'abandon et une haine contre Israël qui monte chaque jour encore un peu plus. Depuis le 7 octobre, plus de 2000 Palestiniens ont été arrêtés et placés en détention administrative, comme Ahmad.
Frédéric Ancel, votre réaction à ce reportage ?
L'autorité palestinienne ne peut rien, elle ne peut pas grand-chose, hein, ça c'est vrai. Ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on me dit qu'elle est totalement discréditée. Moi, je constate quelque chose de factuel, c'est que depuis le 7 octobre et après plus de 5 mois de guerre de haute intensité à Gaza, il n'y a pas d'insurrection dans les villes. Je parle des villes palestiniennes, la fameuse zone A des accords d'Oslo, donc les 8 principales villes palestiniennes qui sont aux mains de l'autorité avec les flics et les militaires palestiniens. Je constate que globalement, sur le plan social et économique, ça tient debout. C'est pas génial, mais ça tient debout. D'ailleurs, avec vos impôts, les miens, les impôts des autres Européens, des Japonais, des Canadiens, etc. Oui, mais tant mieux, d'ailleurs. Ouais. Mais ça tient debout. Ce qui signifie que, dans le jour d'après, alors malheureusement, on n'y est pas encore au jour d'après, par définition, le jour d'après, l'autorité palestinienne aura certainement davantage de coups d'effrange que ce que beaucoup d'observateurs disent trop paresseusement depuis 20 ans pour reprendre en charge la bande de Gaza. Parce que, de toute façon, à mon avis, il n'y a aucune autre force politique, sociale et militaire et diplomatique au monde que l'autorité palestinienne pour récupérer à terme la bande de Gaza.
Cette question qui nous est posée par Dominique dans le Haut-Rhin, est-ce que les otages détenus par le Hamas restent une préoccupation majeure pour le gouvernement israélien ?
Non. Ça ne semble pas être le cas en tous les cas, puisqu'on voit bien que Netanyahou, lui, n'est pas dans cette logique. D'ailleurs, c'était un changement radical en Israël, où jusque-là, jusqu'avant le 7 octobre, c'est vrai que la question des otages, quand il y en avait, tous les moyens étaient mis en œuvre pour les faire libérer. Et là, on voit bien qu'on est dans une autre stratégie de la part de Netanyahou, et c'est bien ça qui est reproché par une partie de la société israélienne qui manifeste et qui campe, d'ailleurs, à Jérusalem.
Qui considère que ce qui est en train de se passer à Gaza n'est pas le meilleur moyen de récupérer les 130 otages qui restent aux mains du Hamas.
Il y a beaucoup de cynisme de la part de Benjamin Netanyahou qui dit non, il ne veut pas y avoir d'élections anticipées parce que ça va compromettre la libération des otages. Et c'est précisément ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas faire grand-chose pour obtenir un cessez-le-feu et libérer les otages.
Juste, est-ce qu'il y a des négociations en cours justement pour faire une troisième ou quatrième vague d'échange d'otages, je ne sais plus à quel...
Ce serait la deuxième.
Est-ce qu'il y a encore des négociations par l'intermédiaire du Qatar, comme c'était le cas la première fois ?
Sous l'égide des Égyptiens, des Qataris, au Caire actuellement, et des responsables du Mossad, du Shin Bet.
Américains.
Et pourquoi ça coince ?
Parce que le Hamas rechigne à un certain nombre de conditions, et en même temps les Israéliens aussi beaucoup. Visiblement, le Hamas demande à ce que les civils puissent revenir dans la partie nord du territoire. Et partent et demandent, le Hamas demande que les Israéliens quittent ce corridor qu'ils ont formé au milieu. Les Israéliens ne sont pas d'accord. On ne peut pas dire que les négociations soient à un stade très progressiste actuellement.
Les otages, c'est aussi la seule manière de négocier pour le Hamas. Donc si jamais ils libèrent les otages, ils n'ont plus de moyens de négociation avec les Israéliens.
Donc pas de négociation possible, du coup, dans ces conditions-là.
Compliqué. Compliqué. Les négociations étaient, en tout cas, Joe Biden s'est montré très optimiste au moment du Ramadan, le 11 mars, en disant qu'il y allait avoir une trêve, et la trêve n'a pas eu lieu. À savoir aussi où sont les otages, parce qu'ils ne sont pas tous aux mains du Hamas, il y en a qui sont aux mains du djihad islamique, d'autres aux mains de bandes armées. Enfin, je ne suis pas sûre que le Hamas sache précisément où se trouvent tous les otages.
Ça a du sens de parler encore de 130 otages ?
Moi, je ne trouve pas, après 6 mois, notamment le petit bébé Kfir, où le Hamas avait annoncé la mort de la maman et des enfants, impossibilité. Les Israéliens parlaient d'une centaine d'otages vivants.
98, d'après les Israéliens. Oui, alors je ne sais pas quelles sont leurs sources. Après, vous avez en Israël une injonction contradictoire qui est totalement paradoxale. C'est-à-dire, les gens reprochent à Netanyahou de ne pas faire suffisamment pour libérer les otages, mais la même proportion, et peut-être même une proportion plus importante d'Israéliens, disent, oui, alors attendez, parce qu'on va faire comme avec Gilad Shalit, le soldat israélien capturé il y a 10 ans, on va en libérer 1200 prisonniers palestiniens, on va récupérer nos otages. Et puis dans un an, 5 ans, 10 ans, ils nous refont un pogrom. Et donc vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle une injonction contradictoire. C'est extrêmement difficile, en tout cas pour la population israélienne.
Et nous revenons maintenant à vos questions. cette question de Gérard en Haute-Vienne. Pour quelles raisons des avions israéliens auraient-ils frappé le consulat iranien de Damas ?
Ben, l'objectif des Israéliens, à travers ces frappes qui durent depuis des années en Syrie, je rappelle, ce n'est pas la première, loin de là.
Non, mais sur l'annexe d'une ambassade, ça ne s'arrive pas tous les quatre matins.
Parce qu'il y avait cette réunion avec des gardiens de la Révolution, et donc de par l'influence que jouent les Iraniens dans la région, eh bien, l'idée de la part d'Israël, c'est d'empêcher la poursuite de ces réunions et la poursuite de l'action de ces Iraniens et en particulier des gardiens de la Révolution dans tous les conflits au Moyen-Orient.
Et les gardiens de la Révolution sont-ils des militaires ?
Oui. Oui, c'est une force militaire. En fait, les gardiens de la Révolution ont été créés au lendemain de la Révolution islamique par l'ayatollah Khomeini pour protéger le régime. D'ailleurs, ils portent leur nom, gardes de la Révolution, donc garder cette révolution. Et c'est un État dans l'État. C'est-à-dire qu'ils détiennent aujourd'hui au minimum 60% de l'économie iranienne. Ils profitent des sanctions européennes pour vendre le pétrole sous le manteau. Donc, bien sûr, c'est une armée à part entière avec des branches. Il y a une armée régulière iranienne et il y a l'armée des gardiens de la Révolution. Il y a l'agence des renseignements iraniens normaux, enfin réguliers. Il y a l'agence de renseignement, les renseignements des gardiens de la Révolution. Et d'ailleurs, lorsque vous parlez avec des prisonniers en Iran, ils vous disent tout de suite, j'étais arrêté par les renseignements des gardiens de la Révolution ou j'étais dans une cellule des autorités de la République islamique.
Faut-il s'attendre à ce qu'Israël frappe l'Iran, particulièrement les sites de recherche nucléaire, Alain Pierrot ?
Ils l'ont déjà fait, mais je ne le pense pas dans l'immédiat parce qu'il sait aussi la ligne rouge que ça constitue. Je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que tout ce qui se passe actuellement a toujours pour toile de fond ce qui se passe à Gaza, au nord d'Israël avec le Hezbollah. Et donc c'est une manière aussi de mettre en avant les lignes rouges possibles pour avoir plus de liberté sur ce que Israël voudrait faire à Gaza. Ce qui est, et on n'en a pas parlé depuis le début, une intervention dans le sud à Rafah, où 1 million de personnes sont actuellement amassées. On parle beaucoup de l'Iran.
Ce que veut faire Israël, dites-vous.
Oui. Ce que veut faire Israël, et qui est le rapport de force actuellement avec Washington, qui demande un certain nombre de garanties sur le passage de l'aide humanitaire, alors qu'Israël, compte tenu des injonctions de la population israélienne, moi je suis frappé tous les jours, quand je parle avec des Israéliens, de la libre parole sur la volonté d'en finir. Hein. Il faut quand même dire
une question. Rafah, ce serait une ligne rouge pour personne ?
Ben si, les Américains ont dit qu'il était hors de question qu'il y ait cette attaque offensive contre Rafah. Si les civils,
on rappelle qu'il y a 1,5 million de civils.
Si les civils ne sont pas protégés, je ne vois pas où les civils pourraient aller, puisque de toute façon, ils sont vraiment complètement coincés. Il y a la mer d'un côté, il y a l'Égypte de l'autre. L'Égypte
ne veut pas
être responsable de la deuxième Nakba. Et donc, de toute façon, toutes ces injonctions de la part en particulier des Américains, mais aussi de l'ONU, de dire pas d'offensive tant que les protections ne sont pas assurées aux civils, de toute façon, elles ne peuvent pas l'être. Donc on est là aussi dans du déclaratoire qui ne repose pas sur grand-chose. La seule chose, une fois encore, c'est arrêtons les bombardements. Ouais. C'est la seule chose à obtenir de la part d'Israël.
Bruno nous pose cette question. L'Iran est-il soutenu par les pays arabes ?
Non, on ne peut pas considérer que l'Iran soit soutenu par les pays arabes.
Ça dépend lesquels.
Mais enfin, non, mais la Syrie, c'est un pays souverain, si on a envie d'appeler ça un pays souverain. Donc, les États arabes qui comptent aujourd'hui dans le Golfe, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ne sont pas favorables à toutes les politiques menées par l'Iran. On va dire ça comme ça.
Allez.
Et vous apprécierez mon sens de la liberté.
Oui. Si Donald Trump est réélu, les États-Unis se désengageront-ils du Moyen-Orient ?
Ils sont déjà désengagés, les États-Unis. Enfin, il y a une influence chinoise extrêmement forte. Et d'ailleurs, l'Arabie saoudite et l'Iran se sont réconciliés sous l'égide de la Chine, mais pas des États-Unis. Non, si Donald Trump revient au pouvoir, en tout cas, il peut attaquer, il peut clairement attaquer l'Iran. Ça, c'est une crainte qui existe, que Donald Trump aille plus loin. Si vous voulez, en janvier 2020, il allait quitter la présidence. Il a attaqué Rassem Soleimani. C'était quand même un événement majeur.
Certains faucons le pressent depuis des années, le pressait déjà à l'époque, à bombarder l'Iran.
Bien sûr, parce qu'il y a un vrai traumatisme.
C'était le seul moyen de les arrêter.
Il y a un vrai traumatisme chez les conservateurs américains, c'est le traumatisme de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran en 79. Et donc, il y a cet affront à laver et ce régime à faire tomber, c'est une obsession depuis 45 ans. Le régime, la République islamique, elle est là depuis 45 ans.
Cette question de Yves dans le Jura, les Israéliens détiennent-ils l'arme atomique ? Pourraient-ils l'utiliser contre l'Iran ?
Ils l'ont, ça on le sait, mais l'utiliser contre l'Iran, ça j'y crois pas.
Bon. Historiquement, quelle est l'origine des tensions entre l'Iran et les États-Unis ? Vous avez
la prise d'otage.
Et un impérialisme sur le pétrole.
Voilà. Allez, ouais. Que se passerait-il si l'Iran déclarait officiellement la guerre à Israël ?
Voilà, je vois absolument pas l'Iran déclarer la guerre à Israël.
C'est pas le genre, et pas officiellement en tout cas.
Et pas officiellement. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que ce soir, il y a une émission à suivre sur France 5, à 21h05, l'enquête de Antoine Robin et Mathieu Kassovitz intitulée « Cannabis ». On se retrouve demain en direct à 17h30. Belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.